Bonjour, bonjour Yves, au micro de Divergence FM pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne dérogera pas à la tradition en rappelant, en apprenant que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale depuis un peu plus d'un siècle maintenant, beaucoup plus d'un siècle maintenant, les petites images qui bougent sur nos grands écrans, nos petits écrans et vos iPhones et autres tablettes. Ce jour, eh bien nous allons balayer rapidement et avec certains focus la carrière d'un cinéaste né le 30 novembre 1937 à South Shields, quelque part au pays de Galles, en Grande-Bretagne, en l'espèce Sir Ridley Scott. Et oui, puisque depuis quelques années, je vérifierai sur ma petite fiche depuis quand, Ridley Scott, réalisateur mondialement connu, a été anobli par la reine Elisabeth II, bien sûr. Ma foi, une tradition bien sympathique quand elle couronne eh bien, des artistes et non pas des sportifs décérébrés, soit dit pour l'occasion. Ridley Scott, donc né en 1937 et duquel nous allons rapidement résumer les premières années puisqu'il manifeste très tôt un intérêt précoce, donc c'est un pléonasme pour le dessin, et que ses parents l'encouragent vers une carrière artistique. Il y a vraiment des parents qui vaudraient la peine d'être connus. Ensuite, eh bien, il commence quelques courts-métrages. Il va à New York faire un stage dans une agence photographique. Et puis, il revient en Grande-Bretagne où il exerce pendant quelques années ses activités à la BBC comme décorateur et comme réalisateur. Puis, Ridley Scott commence à se faire un nom dans le film publicitaire, et oui, puisqu'en une dizaine d'années, il en tournera plusieurs centaines. Ma petite fiche précise entre parenthèses, 3000 selon certaines sources, qui ne sont pas citées. Peu d'importance, en tout cas, pour un réalisateur. Eh bien, l'occasion de s'exercer à différents genres, avec des budgets sans doute confortables, et évidemment l'envie irrésistible de passer au grand écran, ce que Ridley Scott fait en 1976, avec un long métrage maintenant peu connu, mais qui est certainement l'un de ses meilleurs films et qui s'appelle « Duelliste », une histoire adaptée de Joseph Conrad qui raconte les duels singuliers que se livrent deux officiers pendant les guerres de la Révolution et de l'Empire, en France donc, vous l'auriez compris. Un film extrêmement raffiné, un film d'une grande beauté formelle, mais qui ne rencontre pas un grand succès commercial, même s'il obtint en 1977 le prix spécial du jury au Festival de Cannes. Cependant, tout à la fois fort de sa réussite dans les films publicitaires et du succès artistique et technique de Duelliste, Ridley Scott se voit proposer en 1979 de porter à l'écran une histoire à mi-chemin de la science-fiction et de l'horreur qui va faire de lui d'emblée, au bout de son deuxième film, un grand metteur en scène qui va aussi marquer d'une certaine manière, et nous y reviendrons, le reste de sa carrière. Je ne vous ai pas dit le titre du film, c'est exprès, mais aussi on va s'en écouter un petit extrait, et si vraiment ça ne vous rappelle rien, Divergence FM, 24 notes, secondes.
Thank you.
Évidemment, ça craque un peu sous la dent, mais c'est néanmoins la sublimissime partition de Jerry Goldsmith pour un film de Ridley Scott tourné en 1979. Une partition dont je ne comprends toujours pas bien des années après qu'elle n'ait pas obtenu cette année-là l'Oscar de la meilleure musique de film. Et il s'agissait, bien sûr, ou alors je vous l'apprends, Naughty Boys, de la bande originale d'Alien, le 8e passager, un film donc tourné par Ridley Scott en 1979. Personne sans doute n'a oublié le slogan qui figurait sur l'affiche. Dans l'espace, personne ne vous entend crier, c'est ô combien vrai. Il n'y a pas assez de molécules, you naughty boys, pour que le son se propage, comme vous le savez. Bref, une grande réussite du film d'horreur et de science-fiction. Alors je relisais sur ma petite fiche quelques détails sur les effets spéciaux de ce film et j'en retirais une certaine nostalgie puisqu'à l'époque, mesdames et messieurs, tout était fait à la main, pas de numérique évidemment. En 1979, que des maquettes construites, et notamment celle du Nostromo, le vaisseau dans lequel se passe l'essentiel de l'action. Nostromo, là encore, béotien décidément. Heureusement que je suis là pour améliorer la culture générale. Nostromo qui n'est autre, là encore, qu'un titre de Joseph Conrad. On retrouvait dans les rôles principaux de ce film Tom Skerritt, Veronica Cartwright, Harry Dean Stanton, John Hurt, Ian Holm, voilà pourquoi, et Yaphet Kotto qui tous les uns après les autres mouraient sous les coups d'une créature absolument monstrueuse, l'alien en question, ramené dans le vaisseau, seul, finissait par survivre à la fin la sublime Ripley alias Sigourney Weaver et... Vous ne l'avez pas oublié non plus, son chat, bien sûr, qu'elle ramenait pour de nouveaux épisodes, puisque le succès absolument considérable du film entraîna pas moins de 3 suites à ma souvenance. Aliens de James Cameron, qu'on vit quelques années plus tard, puis Alien 3 et même 4, bon, un peu oubliable, quoique pas si malvenu, jusqu'au récent Prometheus, dont je vous parlerai peut-être tout à l'heure, et encore si j'ai le temps. En tout cas, pour ce film, Alien le 8e passager, Ridley Scott avait su tout à la fois mettre son talent de réalisateur de films publicitaires dans des effets chocs, et en même temps créer pendant près de 2 heures une tension sur un thème finalement simple, un monstre qui tue tout le monde. Mais ça tenait quand même 2 heures, et je peux vous dire que c'était absolument terrifiant. On m'excusera même cette allusion véritablement personnelle, mais j'étais ce jour-là accompagné d'une jeune fille qui s'est évanouie. Mais oui, elle s'est évanouie, il faisait chaud dans la salle, et puis quand même, c'était très fort, je l'ai raccompagnée chez elle. Le reste ne vous regarde pas. En tout cas, mais je vous assure, c'est vrai. En 1979, dès son deuxième film... Ridley Scott, avec ce coup de maître, devint un des réalisateurs les plus courus d'Hollywood et on lui confia en 1982 à nouveau la réalisation d'un film de science-fiction qui... À l'époque, même si cela peut paraître surprenant maintenant, ne connut pas un grand succès commercial, puisqu'il avait coûté extrêmement cher et que le succès commercial ne fut pas à l'aune de ce coup, mais qui, depuis 1982, devenu un film culte. Alors là encore, puisque je veux vous réveiller de votre torpeur, je ne vous dirai pas le titre non plus, puis comme ça vous allez le deviner, vous êtes dans 24 notes secondes sur Divergence FM, Bon, si vous ne l'avez pas reconnu, je dois dire que c'est quelque peu excusable puisqu'il s'agit du générique de la mauvaise fin, c'est-à-dire celle qui fut dans la sortie du film en 1982 mais qui disparut de la Director's Cut quelques dizaines d'années plus tard. Il s'agissait d'un film de Ridley Scott, il y avait Harrison Ford dans le rôle principal et du coup vous avez trouvé, c'était bien évidemment Blade Runner, adapté d'un roman, dit ma petite fiche, c'est plutôt une grosse nouvelle, un novella comme disent les Américains, au titre beaucoup plus évocateur, je trouve, mais peut-être pas assez commercial, en tout cas à la caisse. Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? Bonjour monsieur, je voudrais deux places pour les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? Effectivement, ça le faisait moins, mais par contre le film, ça le faisait totalement. Si vous me passez l'expression, Los Angeles en 2019, devenu une mégapole vaguement asiatique, largement polluée, résolument surpeuplée et brillante, avec de la pluie partout, des effets spéciaux absolument magnifiques signés du génie Douglas Trumbull, une photo absolument sublime signée de Jordan Cronenweth, je ne le connais pas mais vraiment je le salue bien bas, pour un film qui depuis est devenu, et ce n'est que justice, un film culte du cinéma de science-fiction, à côté d'Harrison Ford, impeccable il faut bien le dire, qui jouait le rôle d'un chasseur de réplicants, c'est-à-dire des robots plus vrais que nature, dont certains avaient même oublié qu'ils étaient des robots. C'est Dickien ça, mesdames et messieurs, en diable. Et bien donc Harrison Ford, chasseur de réplicants, et notamment de Rutger Hauer, qui meurt dans une scène absolument sublime, et de Sun Jung, de laquelle il finit par tomber amoureux. Je ne vous dis rien sur le reste, d'autant plus qu'il y a, comme je l'ai susurré, presque deux fins. La fin optimiste de 1982, dont nous avons entendu l'accompagnement musical, et une fin qu'il était un peu moins d'une version longue, Director's Cut, tout ce que vous voulez, sorti quelque part aux alentours de 2007. Vraiment un film absolument magistral, une musique, peut-être qu'il était un peu moins signé de Vangelis, duquel nous reparlerons quand nous aurons le temps. Mais ce jour, il s'agit de Ridley Scott. Alors comme le temps passe et que nous n'aurons pas le temps d'évoquer musicalement, bien sûr, tous les films de Ridley Scott, je voudrais non pas égrener la vingtaine de titres de sa filmographie, mais retenir quelques perles dans un sens ou dans un autre d'ailleurs. Par exemple, en 1991, le définitif Thelma et Louise, qui reste pour nous les filles un grand sujet de fierté féminine. Mais oui, en 1492 de Christophe Colomb, mais finalement on n'en parle pas. En 2000, Gladiator avec Russell Crowe, absolument impeccable, il faut le reconnaître, et une musique de Hans Zimmer qui était bien. Alors là, ça fait quand même beaucoup de choses en même temps. Une musique de Hans Zimmer qui était bien pour un film qui remit à jour le goût du péplum. Alors parfois, dans des dérives bien improbables, mais en l'espèce, c'était plutôt bienvenu. En 2001, on vit Hannibal, la suite du Silence des Agneaux et non pas du Seigneur des Anneaux. Entraînez-vous à le répéter plusieurs fois. Ça vous aidera dans vos exercices de diction. On vit en 2002 la chute du Faucon Noir, pour ceux qui aiment les films de guerre et les hélicoptères qui tombent. On vit quelques autres, alors un peu moins bienvenus, notamment, certainement le film le moins connu de Ridley Scott en 2006, une grande année, Le Mal Nommé, où on voyait, il me semble, j'ai déjà oublié, Marion Cotillard perdue quelque part dans le Bordeaux ou dans le Bordelais, c'était selon. Et puis, et nous allons après écouter à nouveau un extrait musical, on retiendra aussi, mais ça c'est pour les amateurs de Cate Blanchett, Les Autres peuvent quitter l'antenne en 2010, un Robin des Bois, où Russell Crowe était quand même un petit peu empâté par rapport à Errol Flynn, mais où Cate Blanchett dans le rôle de Lady Marianne était absolument sublimissime. Alors voilà, un petit retour en arrière maintenant, puisque musicalement, nous allons continuer, si on veut, la carrière de Ridley Scott, puisque en 1985, dans un genre absolument différent, il signa un film résolument différent dans lequel on voyait Tom Cruise, résolument différent, Mia Sara, résolument oubliée, Tim Curry, qui mérite bien son nom, un peu épicé comme garçon, une sorte d'histoire vaguement elfique, quelque part entre je ne sais trop, le magicien d'Oz et le seigneur des anneaux déjà cité, mais quelque part dans la quatrième dimension, comme aurait dit le regretté Rod Sterling. Heureusement pour nous, car je ne pense pas trop m'attarder sur le film, nous verrons après. La musique en était à nouveau signée Jerry Goldsmith, alors vraiment, vraiment pour les aficionados, et puisque aujourd'hui c'était une émission culturelle, rien ne fut épargné au génissime Jerry Goldsmith, puisque c'est avec sa musique que le film sortit en Europe, mais elle fut jugée pas assez commerciale aux États-Unis et on l'a sortie là-bas avec une musique d'un groupe que peut-être les plus chenus d'entre vous n'ont pas oublié, Tangerine Dream. Mais oui, vous vous souvenez forcément de Tangerine Dream à côté le hip-hop. Bref, donc un petit extrait de la bande originale de Légende, je ne vais pas me hasarder sur le hip-hop, je risquerais de tomber avec ma canne. Un petit extrait donc de la bande originale de Légende, un film de Ridley Scott auquel nous consacrons l'émission de ce jour de 24 notes secondes sur Divergence FM.
True love's arms. Come one.
Voilà un large et féerique extrait de la bande originale de Legend, un film de Ridley Scott tourné en 1985, une musique de Jerry Goldsmith. Le temps passe, et bien nous allons évidemment conclure cette émission en musique en faisant un grand saut dans le temps, en passant de 1985 à 2005 pour la bande originale d'un film toujours signé Ridley Scott. Ça s'appelait Kingdom of Heaven, et en français ça s'appelait Kingdom of Heaven, de moins en moins d'originalité. Alors on y retrouvait Orlando Bloom, Eva Green, Jeremy Irons, David Tullis, Brendan Gleeson, and so on, and so on. Une histoire qui se passait au temps des croisades, ma foi, c'était plutôt bienvenu. Une veine rustique et spectaculaire pour Ridley Scott et un compositeur qu'on entend peu dans 24 notes secondes, Harry Gregson-Williams. Alors je vous laisse profiter de sa bande originale Kingdom of Heaven dans 24 notes secondes. Voilà, 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt, see you, bye bye.